Didier Bouvigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé gérant chez Rothschild et compagnie gestion. On va parler avec vous d'actualité sur les marchés. Comment vous abordez les prochaines semaines maintenant que la Fed n'a rien fait finalement, contrairement à beaucoup de prédictions d'économistes?
Oui, bah effectivement, c'était un petit peu une surprise pour nous aussi, puisqu'on considère que Janet Yellen aurait dû sans doute profiter de cette occasion. Ça n'aurait pas été une grande surprise pour les marchés. Elle a passé son tour, ce qui jette un petit peu un froid, parce que elle accrédite le fait que les marchés ont eu raison de corriger au cours de l'été, puisque peut-être qu'on ne nous dit pas tout et que derrière les chiffres, il y a des inquiétudes pour l'avenir et de l'impact de ce ralentissement. Ce n'est pas notre sentiment. On considère que, certes, il y a des effets directs de cette crise asiatique, on y reviendra peut-être, mais en tous les cas, il y a des effets indirects qui sont aussi positifs. Donc, nous, on pense que cette réaction des marchés au cours de l'été, par une forte baisse, puisqu'on est quand même à 15% des plus hauts atteints en avril, est exagérée et qu'elle devrait se corriger dans les mois qui viennent.
Ça veut dire qu'il y a un décalage aujourd'hui peut-être entre la vision des investisseurs et la vision des autorités monétaires qui dictent quand même un petit peu la loi sur les marchés.
Je dirais pas qu'il y a de décalage, puisqu'au bout du compte, en fait, Madame Yellen a suivi le marché, pas dans son action, puisque elle est un petit peu surpris, mais dans l'idée de dire que peut-être que l'environnement mondial peut être affecté par ce qui se passe au niveau global et non pas au niveau des États-Unis. Et elle en tient compte, ce qui est un peu une nouveauté pour les États-Unis qui ont l'habitude de gérer leur politique monétaire en fonction de leurs propres contraintes internes et non pas des contraintes externes. Là, c'est une première. En plus, elle n'a jamais eu l'occasion de changer sa politique. Donc, c'est pour elle une première. Est-ce qu'elle a tremblé avant d'agir? C'est une question. En tous les cas, elle a rejoint les inquiétudes du marché. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Est-ce que ça ne veut pas dire, finalement, on l'avait peut-être oublié aussi, que les marchés, ces marchés sont interconnectés et donc on ne raisonne plus en zone. On est obligé de raisonner au plan mondial si ça ne va pas en Asie.
Oui, c'est effectivement... ce que certains pessimistes évoquent, c'est que le poids de la Chine aujourd'hui et des émergents est beaucoup plus important que ce qui fut dans le passé, et donc ils sont plus attentifs à l'impact des répercussions sur l'économie mondiale. Mais bon, si on voulait faire un peu d'analyse, je crois que les craintes d'abord qui ont suscité cette correction étaient d'avoir une dévaluation très forte du yuan par rapport au dollar. Pour l'instant, on n'est qu'à 2,7% de dépréciation, donc c'est rien. Nous, on ne nous semble pas que ce soit le bon chemin pour la Chine d'aller plus loin dans la dépréciation, puisque le sujet de la Chine, ce n'est pas d'être compétitif pour avoir une économie axée sur l'investissement, c'est d'essayer d'avoir une consommation qui soit plus dynamique, avec un taux d'épargne qui est anormalement élevé, 45%, il n'a cessé de progresser, cette épargne est mal investie, donc c'est plutôt une dynamique interne. Donc il nous semble que les inquiétudes du début ne sont pour l'instant pas validées par ce qui se passe dans la politique monétaire chinoise, et qu'on ait du ralentissement chinois. Il date pas d'il y a 3 mois. Ça fait plus de 6 mois, 9 mois qu'on voit des signes de ralentissement assez tangibles. Et peut-être d'ailleurs qu'on est sans doute pas loin du bottom. On le voit dans les échanges mondiaux qui avaient beaucoup baissé, sont en train de se redresser. Donc ces inquiétudes-là sur la croissance globale, alors qu'on a une économie américaine qui va objectivement très correctement bien, une économie européenne qui se reprend, et c'est tangible après l'amélioration de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal, on voit des signes très concrets en Italie, et sans doute qu'en France on les percevra dans les mois qui viennent.
Avant l'été, on pouvait dire que les investisseurs étaient majoritairement en faveur de justement de la zone euro, en disant que c'est vraiment le pari, compte tenu peut-être de la valorisation des actions américaines. Donc on a eu la Chine qui s'est invitée, la Grèce finalement on est passé à côté, il ne s'est rien passé en tout cas pour les investisseurs.
C'est pas loin du plus haut après la Grèce.
Est-ce qu'aujourd'hui ça change du coup la manière dont on va pouvoir investir dans les prochaines semaines?
Non, mais je crois que justement, l'alignement des planètes qui avait été si évoqué pour justifier les 12-13% de hausse des marchés, on n'entend plus beaucoup parler, alors qu'il n'a jamais été aussi bien aligné, elles n'ont jamais été aussi bien alignées, puisque si je reprends par exemple par rapport à fin 2013, on a un pétrole qui est en baisse de 55%, on a un euro qui est en baisse de 18%, des taux allemands qui sont en baisse de 120 points de base, et des bénéfices des actions de la zone euro qui sont en croissance de 15%, avec un marché qui a seulement gagné 6%, alors qu'il a une prime de risque risques historiquement élevés. On voit bien là qu'il y a la capacité de rebond, de revérifier qu'effectivement ces planètes sont bien alignées, mais là on est dans une phase où le marché, comme Madame Yellen, va attendre des chiffres plus tangibles pour se réconforter sur le faible impact de ce ralentissement chinois.
Alors on le disait aussi avant, ce statu quo, que si les taux allaient monter aux États-Unis, que les marchés émergents allaient être touchés, il y a même certains qui envisagent le pire pour ces marchés émergents. Quand on regarde les marchés émergents, on peut dire aujourd'hui que le Brésil va très mal, la Chine, on en a parlé, c'est plus les marchés émergents qu'on a connus là.
Oui, et nous chez Rothschild, on a toujours été extrêmement prudents et très réservés, on n'a pas d'émergents depuis 2010 dans nos portefeuilles. On considère que ce sont des zones qui sont en phase de fin de cycle avec des tensions inflationnistes, des déséquilibres jumeaux pour beaucoup d'entre eux et des connexions avec les marchés de matières premières qui étaient en bulle. Donc on est dans une phase cyclique typique. C'est douloureux, mais de là à dire que la hausse des taux va engendrer un effondrement de ces devises qui ont déjà perdu 15 à 20%, c'est peut-être un peu excessif, au moins sur ce seul argument. Ce qui est sûr, c'est que la politique économique va être difficile dans ces pays, parce que quand on a de l'inflation et des baisses de taux de change qui accroissent les pressions inflationnistes, monter les taux comme c'est le cas au Brésil à 14%, ça crée des problèmes sur l'économie réelle. Donc la politique va être compliquée, mais après tout, toutes les économies sont appelées à gérer des phases de fin de cycle.
On parlait des taux aux États-Unis. Est-ce que du coup on reporte ça en 2016
Là, il y a débat. C'est clair que pour le mois d'octobre, ça paraîtrait un peu surprenant qu'un mois après, alors là pour le coup, en termes de crédit, ça serait quand même un peu incompréhensible. Ça montrait vraiment un faux pas. Certains évoquent, et d'autres membres de la Fed sont en train de faire des discours pour justifier une augmentation en décembre, les marchés reportent ça sur janvier. Je pense qu'effectivement, on va être dans un jeu où la Fed va pas vouloir complètement perdre son crédit et va essayer de monitorer un petit peu les évolutions d'économie réelle pour justifier un mouvement probablement début 2016 ou peut-être fin 2015, mais pour le coup, ça serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie est beaucoup plus robuste que ce qu'elle avait anticipé.
Est-ce que ça veut dire aussi, en conclusion, qu'il faut peut-être s'attendre à plus de volatilité dans cette période-là? On l'a vu cet été.
La volatilité, c'est un mot qu'on galvaude un peu. La fin de au premier trimestre, on a une volatilité qui était anormalement basse. Donc, quand on est dans des niveaux où ça monte doucement, le Standard & Poor's variait de 3% par rapport à son niveau de début d'année, à la hausse ou à la baisse. Enfin, donc c'est normal qu'il y ait des mouvements d'inflexion avec des prises d'inquiétude, mais en même temps, on l'a vu au cours des 4 dernières années, à chaque fois que la volatilité a monté sur la zone euro parce qu'il y avait Pepe Grillo, la Crimée, l'Ukraine, etc., c'était quand même plutôt des occasions pour compléter les positions, alors que ceux qui ont vendu ont été obligés souvent de se racheter beaucoup plus cher.
Alors là, on a vu sur une action européenne, Volkswagen s'effondrer avec ses problèmes aux États-Unis pour avoir menti sur des normes anti-pollution. Typiquement, c'est une opportunité ou il y a un risque?
Alors nous, on n'était pas sur Volkswagen, on préférait des constructeurs sur lesquels le levier de redressement était plus important, tels que Peugeot ou même Daimler. Bon, ça montre s'il fallait que le législateur américain, enfin les autorités américaines sont extrêmement sévères, après les banques, maintenant dans l'automobile. Bon, là en même temps, il y aura un effet de contagion parce que les autorités allemandes vont saisir des dossiers, ils vont être obligés également de faire leur due diligence. Bon, la réaction est excessive évidemment par rapport au nombre de véhicules concernés aux États-Unis et les pénalités. Mais le marché s'inquiète des effets de contagion sur l'Europe et puis de l'image de marque de Volkswagen. Donc on n'était pas sur ce dossier, tant mieux, c'est pas de bol pour ceux qui y étaient. De là avoir un effet de contagion sur le secteur globalement, comme l'a témoigné le marché hier, ça nous paraît très excessif.
Merci Didier Beauvigné.
Merci.